Chapitre 1. Dieu voulait une famille. L'une des premières pensées que j'ai eues sur Dieu n'était pas à propos d'un Père invisible dans le ciel. Dieu était un créateur, un pouvoir lointain. J'ai supposé qu'il en sache sur moi et sur tout le monde, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il pensait ou même s'il pensait sur moi ou sur les autres personnes dans le monde. Je ne doutais pas qu'il était là, mais pas comme une présence réelle dans une chambre. Plutôt, Dieu était plus ou moins un observateur distant dont je pouvais attirer son attention de temps à autre, peut-être quand j'étais en difficulté. Remarquez que je ne pensais pas de Dieu qu'il voulait me chercher ou qu'il m'aimait pas. Pour ma part, j'ai accepté que Dieu était réel, et je n'avais aucune raison de penser qu'il était hostile, mais c'était tout. Comme dit le proverbe, loin des yeux, loin du cœur. J'ai eu beaucoup à apprendre de Dieu. Puisque je ne le cherchais pas, j'ai supposé qu'il ne me chercherait pas. Si quelqu'un me l'avait demandé, je pense que j'aurais dit que Dieu avait des meilleures choses à faire. J'aurais présupposé que je ne faisais rien de bien ou de mal qui méritait beaucoup d'attention. J'avais tort. Dieu me cherchait. Je ne le savais tout simplement pas. Je sais maintenant que Dieu m'a cherché parce que c'est sa nature de nous chercher. Il est engagé envers nous. Comment savons-nous ces choses à propos de Dieu? C'est une question que je vais demander plus d'une fois. Alors cherchez-la. Commençons par nous-mêmes comme une analogie. C'est normal, cela fait partie de notre nature, de se préoccuper de ce que nous façonnons, surtout s'il a fallu beaucoup d'efforts considérables ou s'il s'agit du résultat d'une pensée concertée. Nous allons naturellement nous fâcher ou nous troubler quand quelqu'un se moque, rabaisse, détruit ou affirme être à lui une chose que nous avons travaillé, réalisé ou pensé en premier. Ne pas ressentir ces choses serait anormal. Nous nous sentons ainsi à cause de ce que nous sommes par défaut. Nous sommes conscients de soi. Nous avons tous une vie intérieure, la vie de la pensée. Nous utilisons notre intelligence pour ce que nous voulons et ce que nous apporte le plaisir, non ce que nous apportera la douleur et la perte. Nous agissons intentionnellement, pas au hasard ou sans aucun but. Nous sommes guidés par notre rationalité et notre intuition. Les illustrations du pourquoi tout ceci est exact sont nombreuses. Même les choses que nous pensons avoir le moins d'importance sont faites intentionnellement, guidées par un point de raison. Nous nous brossons les dents parce que nous ne voulons pas de caries ou de mauvaise haleine. Nous nous levons parce que nous voulons garder notre travail. Ou encore mieux, parce que nous avons quelque chose d'amusant à faire. Nous tournons à gauche au lieu de droite car nous avons un endroit où aller. Dans les cas où nous pourrions faire quelque chose qui pourrait être dit irrationnel, comme insulter quelqu'un sur les médias sociaux, qui ne le verrait peut-être jamais ou ne s'en soucie pas, c'est quand même parce que nous souhaitons un certain résultat, pour se sentir supérieur ou pour leur donner une leçon. Et même quand on fait quelque chose de désagréable, c'est avec l'idée que ce sera bon pour nous en quelque sorte. Pourquoi alors suivre un régime? Nous sommes par nature des êtres déterminés et non sans but. Encore une fois, le contraire de ces choses signalerait une anomalie psychologique ou émotionnelle. Le Dieu de la Bible partage ce profil. Dieu fait ce qu'il fait pour apprécier ce qu'il a fait. Dieu n'a pas créé l'humanité parce qu'il lui manquait quelque chose. Il n'était pas seul, comme s'il était incomplet ou comme s'il avait besoin de compagnie. Dieu n'a besoin de rien parce que, bien, il est Dieu. Il a créé des choses pour apprécier le travail de ses propres mains, pour le dire ainsi. Et les choses qui l'intéressent le plus sont celles qu'il a faites pour être comme lui, à son image, comme le dit la Bible, Genèse 1, verset 26. Ce serait vous et moi. Où notre histoire commence? Notre histoire, l'histoire de la raison pour laquelle Dieu nous veut, commence par l'idée biblique que Dieu est notre Créateur. Bien que nous ne puissions pas complètement comprendre cela, le fait est que nous sommes ici parce que Dieu nous voulait ici. Dieu n'agit pas au hasard, il agit avec un but. Quand il a créé l'humanité, il n'essayait pas de combler une certaine lacune en lui-même, compte tenu du fait qu'il n'avait pas besoin de nous, mais qu'il nous a quand même fait, il n'y a qu'une explication rationnelle pour nous avoir créés. Dieu a voulu que nous existions pour jouir de nous et que nous jouissions de lui en retour. Parce que Dieu nous a créés, la Bible le désigne comme notre Père et les personnes à partir d'Adam comme ses enfants. C'est pour cette raison que la Bible utilise le langage familial pour décrire Dieu et sa relation avec nous. Ce n'est pas une coïncidence. Mais je me devance un peu. Pour vraiment comprendre le contexte du langage centré sur la famille dans la Bible, nous devons remonter à l'époque où Dieu a créé la terre et la race humaine. Cela peut vous surprendre, mais Dieu n'était pas seul dans ce temps-là non plus. C'est une autre raison pour laquelle nous pouvons être sûrs qu'il ne nous a pas créés pour guérir sa solitude. La Bible nous dit qu'avant de nous créer, il avait déjà créé d'autres êtres intelligents. La Bible les appelle « fils de Dieu ». Nous les appelons des anges. Le livre de Job de l'Ancien Testament nous dit que les fils de Dieu ont crié de joie lorsque Dieu a posé les fondements de la terre. Il était déjà présent et il observait. Pensez à l'expression « fils de Dieu ». Le même terme hébreu traduit par « fils » peut également être traduit de manière plus inclusive par « enfant ». Que signifie une phrase comme « enfant de Dieu » ? Famille. Enfant est un terme que vous utiliseriez lorsque la famille est le sujet d'une conversation. Dans le cas de Job 38, versets 4 à 7, la famille est céleste ou surnaturelle. Dieu est le Père des êtres intelligents qu'il a créés dans le domaine invisible. Le fait que Dieu avait déjà une famille surnaturelle nous aide à comprendre sa motivation pour la création d'Adam et Ève, les premiers humains de l'histoire de la Genèse. Dieu voulait une famille humaine en plus de sa famille surnaturelle. Incroyablement, l'histoire de l'Éden nous dit que Dieu voulait que ces deux familles vivent ensemble en sa présence. Cela signifie que, tout comme les anges, les humains avaient originellement été créés pour être aptes dans la présence de Dieu lui-même. Mais comment savons-nous tout cela? Je recommence. Jetons un coup d'œil. Le premier livre de la Bible, Genèse, commence par la création. Dieu avait beaucoup créé par le temps que l'histoire arrive aux humains, Adam et Ève. L'histoire se déroule avec Dieu créant des plantes, des insectes, des créatures volantes et des animaux terrestres. Aucune de ces créatures n'était capable d'avoir une relation avec Dieu. Ils ne pouvaient pas converser avec Dieu. Ils ne pouvaient pas partager leurs pensées avec Dieu ou lui exprimer leur appréciation. Les membres d'une famille s'entendent les uns les autres. Ils interagissent au niveau intellectuel et émotionnel. Ils tissent des liens de camaraderie. Aussi spectaculaires que les plantes et les animaux peuvent être, ils ne pourraient jamais jouer le rôle d'enfant. Ils n'étaient pas de la famille. C'est ce que Dieu voulait vraiment. Son désir était de créer quelque chose à son image. Représentant de Dieu. Après que Dieu ait rempli la terre de toutes sortes de plantes et d'animaux, il avait encore du travail à faire. Dieu a décidé de créer de nouvelles créatures à son image. Genèse 1, verset 27. Il allait être sa famille terrestre. L'image de Dieu est un concept important dans la Bible. Les êtres humains ont été créés pour ressembler à Dieu. Faites comme si l'image de Dieu est un verbe et vous êtes sur la bonne voie pour comprendre l'idée. Nous avons été créés pour imager Dieu, pour être ses imageurs, pour le représenter. Qu'est-ce que représenter Dieu signifie? Genèse 1, versets 27 et 28 nous donne la réponse. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu aurait pu très bien prendre soin de son monde, il est Dieu. Rien n'est au-delà de ses capacités, mais au lieu de cela, Dieu créa une famille terrestre. Ses enfants allaient entreprendre le rôle de la gestion et du maintien de sa création. Ils allaient être des doublures et des partenaires. Imager Dieu, c'est être sa représentation sur la terre. Dieu a chargé les humains de faire un travail qu'il aurait tout aussi bien pu faire lui-même, mais il voulait que ses enfants participent. Les affaires de Dieu allaient être une affaire de famille. L'Éden n'était pas simplement la maison de Dieu. C'était le bureau à domicile de Dieu. Nous avons été créés pour être des collègues de Dieu. Dieu s'est assuré que les personnes qu'il a créées puissent avoir la capacité de l'imager sur terre. Il a partagé ses attributs, ses qualités et ses capacités avec eux, tels que l'intelligence et la créativité. La Bible nous dit que les humains sont une version moindre de ce que Dieu est. Il nous a fait afin de lui ressembler, pour que nous puissions participer avec lui en tant que co-dirigeants et co-gardiens dans son nouveau monde. Imager Dieu est un concept important pour plusieurs raisons. Cela nous donne à chacun une identité sûre et profonde. C'était le désir original de Dieu que chaque être humain soit son enfant et son partenaire. C'est comme cela que Dieu voit les gens. C'est aussi la façon dont nous devrions penser des gens. Dieu veut que chacun de nous considère chaque personne comme un frère ou une sœur. Nous avons tous le même statut comme représentant de Dieu dont il veut dans sa famille. Le racisme, la violence, la manipulation et la coercition ne faisaient pas partie du dessein de Dieu pour l'humanité. Ils sont le résultat du mal, de la rébellion et du péché. Dieu déteste ce que le péché a fait aux gens qu'il aime. C'est quelque chose dont nous devons nous souvenir lorsque nous pensons à nos propres échecs moraux et à ceux des autres. Imager Dieu nous donne aussi un but. Nous avons une mission. Chaque personne, peu importe si petite ou faible, ou d'une courte vie, a un rôle à jouer dans la vie de quelqu'un d'autre. Chaque labeur que nous entreprenons avec cœur, qui honore Dieu et nos chers représentants, devient un appel spirituel. Dans l'Esprit de Dieu, le rôle d'un pasteur, d'un ministre ou d'un prêtre n'est pas supérieur à aucun autre appel. Notre façon de vivre soit bénie les autres représentants en leur rappelant à quoi doit ressembler la vie et l'harmonie avec Dieu, ou soit les maudits. Ce que nous faisons est important, et la plupart du temps de manière insignifiante et peu spectaculaire. C'est pourquoi j'ai répondu à ma première question de la façon dont je l'ai fait. Qu'est-ce que Dieu veut? Il te veut. Il veut une famille. Il veut des collègues. Il veut que vous sachiez qui vous êtes et pourquoi votre vie a de la valeur pour lui. Par contre, nous ne faisons que commencer. Il y en a beaucoup plus à cette histoire. La vie dans ce monde, et peut-être même dans notre propre maison, ne se conforme pas à la vision de Dieu. Quelque chose s'est passé pour tout gâcher. Le chagrin a été si grand que Dieu a presque décidé d'abandonner l'humanité.